L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Le 3 juin dernier, je vous ai fait découvrir et je vous ai emmené dans les coulisses du Salon des livres et des arts de Claret. On en a sorti 3 heures de son que vous avez eu le plaisir d'écouter cet été. Et là, on se retrouve en plein cœur de Montpellier, dans un endroit qui n'avait pas vu le salon depuis 3-4 ans. Je vous parle de Figuerolles, où on retrouve de nombreux auteurs qui étaient présents à Claret, mais d'autres. Et pourquoi, en ce début d'automne ou en cette fin d'été, avoir décidé de recommencer cette expérience à Figuerolles? Alors la promenade continue, donc après le groupe des quatre là-bas, je suis avec quelqu'un que vous connaissez puisque j'ai eu le plaisir de le recevoir au printemps. Je suis avec Serge Bousquet. Bonjour Serge.
Bonjour Nathalie.
Serge, on s'était rencontrés pour l'Inconnu des Beaux-Arts.
Exactement, tu m'as accueilli effectivement pour que je puisse parler pendant quelques minutes, de longues minutes, de mon premier ouvrage, oui.
Et puis on s'est revu à la Comédie du Livre où tu as eu la chance d'être sur le stand de Gibert avec beaucoup de monde, beaucoup de belles rencontres à côté de beaux écrivains.
Oui Nathalie, tu as raison de dire de beaux écrivains, de belles rencontres, parce qu'effectivement pour un écrivain, un jeune écrivain comme je suis, aller face à ce public qui est toujours très intéressé par l'écriture, c'est très enrichissant de rencontrer des gens qui ont l'amour de l'écriture.
Alors je crois que quand on a échangé, tu m'as dit que tu avais déjà bien avancé le prochain.
Oui, alors le prochain, effectivement, qui fera partie d'une trilogie, donc celui-ci se passera en République du Mozambique avec la recherche de disparus. Le titre, je pense que ce sera celui-là, le dernier, choisi avec évidemment l'aval de l'éditeur. Il s'intitulera « Les disparus de Maputo ». Maputo, pour ceux qui l'ignorent, c'est la capitale de la République du Mozambique.
Bah, ça va faire un beau sujet, surtout qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe en Afrique et en France-Afrique, ça change là en ce moment, ça bouge beaucoup. Le Mozambique, on a des relations apaisées avec eux ou pas terribles ?
Non, les relations franco-mozambicaines sont tout à fait apaisées actuellement, sauf que sur le territoire perdure une lutte intestine entre le monde musulman et le monde chrétien, comme je viens de l'indiquer précédemment.
Ben Serge Bousquet, on attend. Il y a une date de prévue pour la sortie ?
J'ose espérer qu'il sera prêt pour la prochaine Comédie du Livre.
Oh, ben ça va, alors vous me laissez le temps, parce que là, c'est vrai que j'ai un carnet de bord assez rempli. Donc, on a le temps de se revoir pour celui-ci. Merci en tout cas beaucoup. Et puis, j'ai un très joli souvenir de cette rencontre. Et puis, de votre émerveillement et de votre bonheur pur à la Comédie du Livre d'être là.
Merci Nathalie de me donner l'occasion de m'exprimer à ce sujet. En tant que native de Montpellier, pour moi la boucle est bouclée puisque j'ai eu le bonheur d'être sur la place du Pérou et de me retrouver aujourd'hui place Salengro où mes ancêtres à la fois espagnols et italiens ont vécu dans ce quartier au début du siècle dernier.
Merci Serge Bousquet.
Merci Nathalie, merci à Radio FM 91+.
Et après Serge Bousquet, donc, qui nous a parlé de cet Inconnu des Beaux-Arts, je suis en compagnie de Claire Bruguière. Alors on avait mis le off un petit peu du micro et puis on parlait de quand est-ce qu'on s'était rencontrés ou ça. Donc c'était à Parole d'Auteur, à Saint-Clément-de-Rivière, avec le Salon du Livre organisé par notre charmante Francine Ponce-Boé, que je salue si elle entend l'émission. Et puis Claire Bruguière, à l'époque, m'avait parlé plutôt d'un projet. Donc elle va nous en parler parce que le projet, ça devait être donc, je pense, en 2022, février 2022, Claire. Et donc, évidemment, sur ce salon, il y avait Florence Tolozan, notre chère amie. Et Claire m'avait parlé un peu de son livre. Et là, bah, je lui propose qu'elle vous en parle à vous.
Eh bien, depuis, le bébé a vu le jour. Il a trouvé une maison d'éditeur, une maison d'édition dans l'Aude, à Aragon, qui s'appelle Libre de Lire. Et donc, cette maison d'édition a choisi d'éditer ma... Ce bébé qui s'appelle 5 minutes encore. C'est un roman particulier. C'est un roman d'anticipation qui se passe en Occitanie, Je l'ai écrit parce que, en fait, je ne trouvais pas en librairie un roman d'anticipation, donc qui parle un peu du futur proche, qui soit situé en France et particulièrement dans notre région. Et donc, je l'ai écrit. Les personnages se sont imposés assez rapidement. C'est une jeune femme, comme vous et moi, qui une personne ordinaire.
Je suis très jeune.
Ah oui, mais on est toujours jeune dans sa tête. On reste dans sa tête, on reste jeune. On reste au même âge, toujours. C'est le miroir qui se transforme, en fait. Et donc, cette jeune femme ordinaire va être confrontée à des événements extraordinaires qu'elle va devoir surmonter et sublimer. C'est une épopée, c'est une odyssée, et qui se passe chez nous. Comme quoi, il n'y a pas besoin de partir très loin pour vivre des événements extraordinaires.
Quand vous dites chez nous, c'est dans quel coin ?
Alors, on part de Montpellier, on va jusqu'à Carcassonne. On se déplacera un peu dans les Corbières. On va aussi dans les Pyrénées-Orientales. On va jusqu'à Beaucaire. Donc c'est tout un circuit que je vous propose dans des lieux connus que vous pouvez visiter et avec des images et une histoire aussi. C'est l'histoire de cette jeune femme qui va réussir à surmonter ces événements grâce à ses compagnons, parce qu'ils vont former une équipe et aussi une belle histoire d'amour.
Le titre ?
5 minutes encore.
Et donc, votre nom ?
Claire Bruguière.
Et pour vous trouver, pour trouver le livre, si vous avez donné envie à quelqu'un de l'acheter, de le lire ?
Alors, vous pouvez le trouver à la FNAC, parce qu'il est distribué à la FNAC par Hachette. Et aussi, le commander sur le site de l'éditeur qui s'appelle Libre de lire à Aragon, Carcassonne. Et ou me contacter directement sur les salons. De plus en plus présente.
Merci beaucoup Claire Bruguière, merci et merci de ce beau retour en arrière entre nous qui se concrétise aujourd'hui, c'est superbe. Merci, merci bien. Comment se passe cette rentrée Tony, Savannah ?
Ça va très bien. Je vais commencer à la mi-septembre mes cours de percussion. Voilà, je peux donner le numéro ?
Oui, des ateliers, des stages.
Tout oui, ça. Oui, ateliers, stages, 06 64 30 16 33. Ouais, je donne des cours de percussion, des cours de batterie et pour les débutants, des cours de piano et basse.
Et si vous avez envie d'en savoir plus, avec Tony, on avait fait une belle matinale où il racontait un petit peu tout son travail, ses approches musicales. Et c'est toujours disponible en podcast sur le site de FM+. C'est difficile de réenclencher une année comme ça, d'aller chercher justement des stages, des partenariats, des élèves. C'est dur ?
Ça fait partie de la vie du musicien enseignant. C'est sa vie, ça fait partie de... là où c'est embêtant et là où c'est pas facile, c'est que je suis aussi musicien live et leader du groupe Savannah Magic. Et quand on n'a pas de manager ou agent artistique, ça devient très délicat là. Parce que on a toujours tendance, en tant que musicien de live, à mettre en évidence le travail que l'on doit fournir pour être soi, pour être différent, pour trouver et pour travailler donc on privilégie cela et on a l'impression de perdre en tant qu'artiste, de perdre du temps devant un ordinateur à aller quérir des éventuels partenaires culturels qui ne répondent jamais d'ailleurs. Et je pense que c'est la plaie actuellement, c'est que peut-être que je ne jette la pierre à quiconque, puisqu'on peut employer l'adjectif submergé dans certains cas, mais quand même c'est important de répondre. Donc c'est là la difficulté. La difficulté, ce ne sont pas les élèves à chercher ou les crèches ou intervenir. Mais le plus difficile pour moi, c'est que je cherche un manager, un agent artistique. Quelqu'un qui peut aimer ma musique et qui peut la défendre.
Ça finira par arriver peut-être. Tu peux redonner ton numéro, Tony ?
06 64 30 16 33.
Il y a un site, je crois, aussi, Tony Savannah.
Oui, il suffit de taper sur moteur de recherche Tony Savannah.
Et je mettrai le lien, bien sûr, sur le résumé de l'émission. Merci, Tony. Merci. Merci beaucoup.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps.
Bonjour Julien Brun.
Bonjour Nathalie.
Il se marre, il se moque de moi, mais c'est ça le direct. Besoin d'ici, désir d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, on n'avait pas dit l'éditeur.
Les éditions 5 Sens.
C'est pour ça que je n'avais pas enregistré.
Ah, ouais.
Donc,
je m'enfonce.
Oui, je m'enfonce. Et en plus, c'est le seul que je n'ai pas lu. Alors, tu peux peut-être nous faire le pitch.
C'est un roman qui est sur le voyage, puisqu'il y a pratiquement tous les pays d'Amérique latine qui sont visités. Un personnage qui s'enfuit de Barcelone et qui va un petit peu à travers d'autres cultures, à travers différents personnages qu'il va rencontrer au hasard de sa déambulation, qui va petit à petit faire le point sur sa vie, se reconstruire et parvenir enfin à répondre à certaines questions.
Oh, je lis quand même. Hein. Après les autres, je les ai tous lus, hein, donc c'est moi qui fais le pitch. Le Rocking Chair, trois générations en Espagne avec un objet, voilà. Il y a une fille, la dernière, la troisième, c'est une fille. Hein. Deux hommes et une fille. Avec à chaque fois une lecture du franquisme, de la période post-franquiste qui a été. Comment ça, la Movida, non ?
Oui, on peut le résumer comme étant la Movida, surtout à la fin des années 70, début des années 80. Ouais.
Une grande libération. Hein. On en avait parlé quand vous étiez venu en parler à la radio, mais moi je me souviens très bien de l'étranglement de Pugantiche et de tout ce qui s'est passé après, puisque c'était une des dernières actions terribles de Franco. Il est mort pas longtemps après, je crois.
Oui, c'est le dernier condamné à mort sous Franco. Ouais. Il est 1973 et le dictateur est mort en 1975.
Moi, j'étais au lycée quand il est mort. Donc oui, j'avais 16 ans, j'étais au lycée. C'était la bonne fête quand même. Hein. Dans le foyer du lycée, c'était la bonne fête. Hein. Et puis après, Le murmure des oiseaux, donc est un autre univers en prison. Donc un jeune taulard qui rencontre un vieux taulard et ces hommes qui n'ont pas grand-chose en commun vont se trouver plein de choses en commun.
Oui, c'est un huis clos à la prison de Barcelone. Deux hommes que tout oppose à la base. Leur origine sociale, leur âge, leur connaissance. Il y en a un qui a vécu que sous la dictature, puisque ça se passe à la fin des années 70, l'autre qui a très peu connu la dictature. Et ils vont devoir aller au-delà de leur silence, au-delà de leur colère, et vivre ensemble dans une cellule de quelques mètres carrés pendant une dizaine d'années.
Je crois qu'il y en a un des deux qui finit en Argentine, il n'y a pas un truc comme ça à la fin ?
Il y en a un des deux qui part, qui sort de prison, qui a fini de purger sa peine avant l'autre. Et donc ils vont effectivement, il va se forger entre eux une belle amitié qui va se poursuivre un petit peu à leur sortie de prison. Ouais.
Et puis après la vie, un livre entrouvert. Alors celui-là m'a beaucoup marqué, vraiment. Alors à chaque fois en plus il y a des choses récurrentes, je ne sais pas si dans Besoin d'ici et Désir d'ailleurs il y a ça, mais dans les autres il y a le fameux quartier du Raval, il y a votre amour pour Barcelone, il y a des points forts récurrents qui reviennent de livre en livre quand même. Hein. Et donc la vie, merci Julien. Peut-être vous voulez faire le pitch parce que là, moi, je viens de parler des deux autres.
La vie, un livre entrouvert, c'est un livre qui est né quand il y a eu le fameux attentat sur les Ramblas en août 2017. Cette fameuse camionnette là qui a foncé sur la foule et qui a tué 15 personnes. Donc c'est un livre qui se veut remettre un petit peu les choses dans l'ordre, je dirais, et de montrer quels est vraiment les idéaux que véhicule la ville de Barcelone à travers des gens qui sont catalans, espagnols, qui viennent d'Amérique latine, du Pakistan, de partout.
Et ça se passe important pour les amateurs de livres, parce qu'en plus on est dans un salon.
Voilà, et donc ce livre, le roman, il se passe sur une matinée qui est certainement une des matinées les plus emblématiques en Catalogne, c'est celle de la Sant Jordi, qui est l'équivalent de la Saint-Valentin en France, mais avec le particularisme qu'en Catalogne, lors de la Sant Jordi, on offre un livre et une rose à la personne qu'on apprécie, qu'on aime, etc. Et donc, il y a la transmission en plus de l'amour, il y a la transmission de la culture et du savoir universel à travers le livre. Et donc tous les 23 avril, lors de la Saint-Jordi, il y a un énorme salon du livre. Et l'intrigue du roman se passe le jour de la Saint-Jordi.
Voilà. Avec un élément perturbateur et qui avance de portrait en portrait, puisque ce sont des portraits des auteurs. Et puis on retrouve d'ailleurs, c'est un roman à clé, il y a quelques auteurs ou quelques libraires que nous pouvons avoir croisés, toi et moi, sur des salons dans nos vies.
Inspiration, voilà.
Il y a
8 ou 9 personnages, effectivement, dont un qui est un élément perturbateur.
Voilà. Qui va mettre le bronc, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis le dernier, je m'en excuse, je devais vous recevoir, et puis j'ai eu des petits pépins de deuil. Donc on a remis, mais il va falloir quand même qu'on en parle. Donc je vous en laisse parler, je l'ai lu, mais il faudra que je le lise avant, parce que vous savez à quel point j'aime lire les livres la veille où je vous reçois. Mirobolante disparition. Alors c'est quoi? C'est parce qu'il y a un jeu de mots.
Ben déjà, c'est un polar, alors que mes précédents livres, c'est des romans. Donc là, c'est un polar. C'est Mirobolante disparition. Ben, c'est tout simplement un tableau de Joan Miró, l'artiste peintre catalan, qui est volé à la Fondation Miró à Barcelone. Et on va suivre durant tout le livre le tableau qui va passer de main en main et qui va franchir les frontières, puisqu'il va partir de Barcelone pour aller à Bangkok, pour atterrir à La Havane, à Tijuana au Mexique, et à chaque fois avec la volonté de mettre en avant l'œuvre de Joan Miró au-delà du tableau choisi qui est volé, et également de pouvoir montrer au lecteur un petit peu l'univers, la vie sociale à La Havane, les problématiques qu'il peut y avoir à La Havane, à Tijuana, avec notamment à Tijuana beaucoup de violence, avec le poids des narcotrafiquants sur l'ensemble du système politique, économique et social mexicain, par exemple. Mmh. Voilà, il y a tout un univers.
Et celui-là a été édité chez Ubicart.
Il est édité, oui, par Ubicart, une maison d'édition basée à Montpellier, avec les couvertures et les lignes graphiques réalisées par Virginie Guidet. Ouais.
Merci beaucoup, Julien Brun. À très bientôt.
Merci Nathalie, à bientôt. Merci.
Et après Julien Brun et ses odeurs d'Espagne, de Ramblas, du quartier du Raval, pas terrible le quartier du Raval au niveau odeur hein, dans les bouquins, j'ai le plaisir d'être avec Marina Carieux. Marina qui vient de me rappeler que nous nous sommes rencontrés donc à Claret. Et Marina qui a écrit un livre qui s'appelle « Il y a des silences ». Et ben, elle va nous en parler tout de suite. Bonjour Marina.
Bonjour.
Marina, il y a des silences. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre?
Il y a l'Islande. L'Islande. On parlait tout à l'heure des Ramblas. Là, on est loin de la chaleur. On est plutôt dans l'île volcanique que j'ai visitée en 2017 et qui m'a marquée au fer rouge. Et je voulais vraiment la retranscrire. Et c'est une île qui appelle à l'évasion, à l'introspection, au bien-être, etc. Donc je voulais l'associer également au silence. Mais le silence, dans mon histoire, il est lié à un traumatisme d'une petite fille qui voit son père chuter d'une falaise et qui devient mutique. Et sa famille va mettre tout en œuvre pour essayer de lui faire recouvrer la parole avec des bonnes ou des mauvaises méthodes. On a l'oncle qui va être plutôt bienveillant et sa mère qui est face à une impuissance terrible qui va la ronger. Et je voulais la pousser vraiment derrière ces derniers retranchements et jusqu'à la folie en fait que peut engendrer l'impuissance.
Comment ça vous est venu cette histoire? Il y a eu un fait divers, quelque chose qui vous est venu? Comment vous l'avez créé?
La genèse de mes histoires est complètement inconnue, en fait. Je ne sais pas du tout comment viennent mes idées.
Parce que là, on est à côté de votre table. C'est le troisième, quatrième roman? Quatrième?
Il y a deux recueils de...
Je vous le rends pendant qu'on est...
Il y a deux anthologies, donc, qui sont des recueils de nouvelles avec d'autres auteurs de la maison d'édition. Et Évasion Édition, pardon. Et celui-ci, c'est mon deuxième roman. J'ai écrit deux romans toute seule. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des sujets sombres, ça peut être des sujets tabous comme le harcèlement scolaire, le deuil, l'inceste, pour le regarder en face, mon premier. Et ici, je voulais parler de l'impuissance. J'aime bien malmener mes personnages, ils sont souvent pas forcément aimés. Enfin, même Éline, le personnage principal, la mère, est détestée, souvent. Et non, je sais pas trop, ça peut être une musique. Il y a beaucoup de Nina Simone,
Elle est citée sur la quatrième de couve. Vous êtes jeune, Marina. Enfin bon, mais faites jeune. Faites jeune par rapport. Non, mais par rapport à la majorité des auteurs là, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écrire? Enfin, je sais pas. Vous avez quel âge, sans indiscrétion?
J'ai 47 ans.
Ah oui, bah oui, évidemment, vous en faites 30, alors c'est pas possible. On doit vous le dire quand même que vous faites vraiment remarquablement jeune. Oui, alors évidemment, ma question tombe complètement à l'eau, mais bon, comment ça vous est venu quand même l'envie d'écrire?
Je crois que je le porte en moi depuis un moment, en fait. Je me souviens d'un journal intime qu'on m'avait offert, et puis en parallèle, j'avais le journal d'Anne Frank, et je me suis vite aperçue que mon écriture était loin d'être exceptionnelle et que c'était pas si intéressant que ça. Du coup, je pense que j'ai commencé un petit peu à réfléchir à comment écrire. Et puis après, il y a eu la vie qui m'a embarquée, ma vie d'adolescente, de femme, de mère, d'étudiante, voilà. Et puis, alors j'ai deux enfants qui sont allés dans une association pour HPI. Et pendant qu'on leur expliquait ce que c'était, nous, on était avec les parents et avec la présidente de l'association qui a fait un tour de table en disant qu'être HPI, ce n'était pas forcément faire preuve de beaucoup d'innovation, etc., mais de porter à bien aussi un projet qu'on pouvait avoir. Et quand elle m'a regardée, elle m'a dit « comme écrire un roman ». Et ça a vraiment résonné en moi. Ça a été quelque chose...
Et vous pensez que vous l'êtes? Parce qu'il y a aussi des révélations comme ça, il n'y a pas d'âge. Hein. Parce que je connais bien le sujet, parce que j'ai eu le plaisir de recevoir... Alors, elle, c'est Pablo, Jean-Père, et elle, je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'est Jean-Père, c'est sa mère. Et donc, ils sont tous les deux... Elle a trouvé que son fils était HPI, donc elle travaille sur les HPI adolescents. Et elle, ça lui a révélé tard qu'elle l'était aussi. Donc c'est pour ça que je vous posais cette question en toute naïveté et bienveillance.
Il y a forcément un parent qui l'est, et chaque parent pense que c'est l'autre. Voilà, donc, et je ne ferai pas de recherche. Je veux pas savoir.
En tout cas, ça me donne vraiment envie, vous savez que j'ai une émission littéraire aussi, d'une heure toutes les semaines. Et franchement, ça me donne très envie de vous recevoir et que vous veniez en parler plus longuement. Parce que le sujet est beau et puis vous avez une très jolie personnalité, Marina, vraiment.
Merci beaucoup. Ce serait une expérience inédite pour moi, sortir de ma zone de confort. Mais ce sera avec plaisir, oui.
Merci Marina Carieux. Donc je rappelle le titre, c'est « Il y a des silences » de Marina Carieux aux éditions Évasion Éditions. Merci beaucoup.
Merci.
Alors après toutes ces belles rencontres, et ben l'après-midi s'avance. Je pense qu'il ne doit pas être loin de 4 heures. Hein, voilà, depuis 10 heures ce matin, je rencontre des auteurs, des autrices, des belles personnalités. Là, j'en ai encore quelques-uns avant la fin de la journée. J'ai ma camarade Marie-Agnès Salezada qui passe pas loin et qui en a interviewé aussi. Et là, j'ai le plaisir de retrouver Jo Papini. Jo Papini, la dernière rencontre qu'on a eue, c'est dans les Jardins de Claret, Jo. Et puis, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on se connaît depuis que... je travaillais à France Loisirs et nous avions pris 10 mamies. Pourquoi? Vous aviez fait des ateliers avec des enfants. Et puis, dernière fois que je vous ai reçu, c'est pour les Montpellier-Rennes sans pareil. Alors là, j'ai rencontré la députée, Nathalie Oziol, qui était très, très contente d'avoir acquis ce livre. Bonjour, Jo Papini.
Bonjour.
Jo, vous nous parlez un petit peu aujourd'hui des livres que vous présentez. Donc, je viens de dire 10 mamies, pourquoi? Donc, est un livre, vous m'aviez dit, éthologique, c'est ça?
Ce sont des contes éthiologiques, c'est-à-dire des contes pour les enfants, mais en même temps des contes qui répondent aussi à leur curiosité, à leurs questions, puisque le but du conte éthiologique, c'est de poser une question. Les enfants posent beaucoup de questions, donc l'enfant va poser une question sur un fait naturel que l'on ne peut pas expliquer. Par exemple, pourquoi est-ce que les ânes font hiant? Donc on ne peut pas l'expliquer. On répond à l'enfant, mais... Autrefois, les ânes ne faisaient pas hiant. Mais un jour, voilà ce qui arriva, et on invente une histoire qui se terminera par « Depuis ce jour-là, tous les ânes font hiant ».
Et à l'époque, il n'était pas chez Nombre 7. Là, il est chez Nombre 7. C'est Christophe qui vous l'a pris, c'est ça.
On l'a réédité parce que ça marche très bien, ces contes.
Et puis, bon, on va parler un peu de ces Montpellier-Rennes. Donc, on en a parlé longtemps, c'était avant Noël, je crois, ou juste après Noël. C'était fin d'année dernière, je crois qu'on s'était vu pour Montpellier-Rennes sans pareil. Il y a aussi un petit livre que vous aviez, que vous n'avez plus, un peu molletonné. Ah, voilà. Il était joli aussi, celui-là. Il sera réédité
J'en ai eu deux de cette série. C'était Les Légendes des Cévennes et Montpellier, Histoire et Légendes. Donc, ils ont été épuisés. Le Montpellier Histoire et Légende a été réédité. Il est de nouveau épuisé. Je pense qu'on le trouve encore chez Sorens, mais je ne sais plus. Alors les Montpelliéraines, donc ça c'est un livre qui marche très très bien, oui, puisque sans le demander, j'ai même eu deux articles dans la Gazette du journaliste que je ne connaissais pas, mais qui disait à lire absolument, voilà. Donc c'est très intéressant parce que à la fois c'est la vie de 14 femmes qui ont vécu à Montpellier, qui étaient de Montpellier et qui ont connu un destin vraiment hors norme, que ce soit en bien ou en mal. Et donc leur vie est passionnante et elles sont surprenantes, ces femmes. Et au-delà de ces femmes, par les chemins qu'elles ont parcourus, les événements traversés, les célébrités souvent qu'elles ont rencontrées, on a du coup un historique de la région et parfois même de plus que la région, comme avec Lucie Février, qui a reçu Léonore Roosevelt, la veuve du président, et qui est à l'origine du départ de l'Exodus de Sète.
C'est celle que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs.
Voilà, mais bon, elles ne sont pas très connues, mais en même temps, elles ont été hyper connues dans leur temps.
Et puis, avant de se quitter, la rue de la Madeleine. Donc, rue de la Madeleine, toujours à nombre 7, hein, la maison d'édition de Christophe Landès, et les racontés de par le monde. Ça, tiens, je le prendrais, j'aimerais beaucoup. Un jour, j'ai écouté par hasard une émission, je crois que c'était France Inter ou France Culture, sur l'arrivée des rats à la peste de Marseille, et qui expliquait que la peste de Marseille, c'était pas les rats qui l'avaient amené, c'était les puces.
Oui, oui. Donc là, ce livre raconté de par le monde, j'ai voulu faire un peu une réhabilitation du rat. Parce que souvent, on dit « Ah, le rat, on a un préjugé sur le rat », alors qu'il a fait partie des nouveaux animaux de compagnie, les niaques, puisque souvent, un adolescent se baladait avec son rat sur l'épaule à une époque. Donc là, ce sont des histoires que j'ai écrites, mais un petit peu de partout dans le monde. Il y en a une qui se passe en Algérie, il y en a une autre qui se passe en Chine, enfin donc, y compris celle du Zodiac où le rat arrive premier. Et donc à travers, ils sont toujours en face de soit des hommes, soit d'autres animaux, mais le rat est toujours le personnage principal et c'est un animal, ma foi, fort sympathique. Voilà.
On ne s'est jamais parlé pour ce livre, ben, on va en parler, voilà. Je ne sais pas quand, parce que là j'ai... énormément de... Avec chance, hein, j'ai la chance de rencontrer tellement d'auteurs passionnants, passionnés, que j'invite sur les ondes. Et voilà. Donc mais on parlera du rat, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Si on n'en parle pas dans les émissions littéraires, on trouvera une autre émission pour en parler toutes les deux. C'est pas grave. Merci beaucoup, Jo, en plus. Voilà, la rue de la Madeleine.
C'est un roman policier, mais un policier psychologique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus quand même de choses plus fines, bon. Et puis la particularité, c'est que on l'a écrit à deux.
Deux cerveaux et quatre mains.
Voilà. Deux cerveaux et quatre mains.
Ça vous permet de présenter votre voisine.
Voilà, donc Anne-Marie Ménadier, qui est ma auteure, ma co-auteure. Et donc on a pris beaucoup de plaisir à écrire cette histoire qui se passe à La Roque, la rue principale de La Roque. C'est la rue de la Madeleine, dans le vieux La Roque, et on a imaginé que les personnages de l'histoire habitaient tous cette rue.
Voilà. Un livre à découvrir. Merci Jo Papini. Merci Anne-Marie Ménadier. Donc, pour vous connaître, Jo, vous avez une page Facebook et un site.
J'ai une page Facebook.
Oui, voilà, pour en savoir un peu. Alors. Voilà, et elle fait des collages. Donc on va la réinviter parce que là, sinon, ça va être qu'une émission spéciale Jo Papini. Merci Jo, à bientôt. Merci Anne-Marie, merci. Je vous laisse avec un lecteur. Voilà. Bonjour, Armel Wolf. Voilà, donc Nathalie, je travaille à Radio FM+, et je fais le relais de... Vous me voyez peut-être depuis tout à l'heure, assise à demander à tout le monde de raconter. Donc là, vous avez un gros livre, un gros beau livre, hein, qui est un livre d'images aussi, de photos. Vous nous en dites un petit peu, Armel Wolf, sur Antarès et moi.
C'est un voyage que mes grands-parents ont fait de 1977 à 1979, qui s'est terminé par un naufrage, mais que j'avais, moi, envie de retranscrire la beauté et les aventures qu'ils ont vécues au cours de ce voyage.
Pourquoi en avoir fait un beau livre, justement? Parce que bon, il n'est pas du tout d'un format roman, enfin, ni document d'ailleurs. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de documents qui vous ont... Et la couverture est reliée, par exemple, c'est assez rare.
Oui, bah, j'avais envie d'en faire un beau livre parce qu'à l'intérieur, il y a des lettres que ma grand-mère a écrites, que j'ai retranscrites. Il y a le récit de mon grand-père et mon point de vue, plus des photos d'archives, d'extraits de journaux. Et donc, voilà, j'avais envie de faire quelque chose de beau.
On se rencontre aujourd'hui au Salon du Livre de Figueroa. Vous en faites beaucoup des salons pour vous faire connaître parce que c'est en auto-édition ou c'est un...
Oui, c'est en auto-édition et non, c'est le premier salon parce que c'est les premiers exemplaires que je reçois. Je les ai reçus jeudi.
C'est tout frais. Donc, Antares et moi, Armel Wolf. Et donc, je vous lis le début de la quatrième. Ça la promettait d'être un voyage extraordinaire, des rencontres fabuleuses et un retour triomphant. Il y avait tous les ingrédients, un voilier, une famille, des envies, des rêves. Mais c'est sans compter sur les imprévus, les déconvenus et sur la force de la nature qui balayera tout d'un revers de cyclone, y compris nos vies. Ben, ça donne envie, en tout cas. Mais j'ai vu plein de gens qui l'avaient, hein, quand même, dans les mains. Donc, ça a dû interpeller. Merci beaucoup. Merci, Armel Wolf.
Merci.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche mais notre âge à l'heure.
Alors je suis avec Anouang. Anouang, vous la connaissez sur les ondes de Radio FM+, puisque c'est notre conteuse pour la nouvelle saison aussi, Anne.
Oui, donc parole de conte annoncée par William.
Quel horaire, tu sais, quel horaire tu diffusais ?
Eh bien, c'est le dimanche. Hein, la première, je crois que c'est 13h15 et la rediffusion, c'est 19h15.
Tu es là pour quoi aujourd'hui, Anne, sous ces arbres centenaires ou pas loin ?
Eh bien, je suis là pour prendre le soleil, parce que chez moi, c'est un peu à l'ombre à Saint-Gély-du-Fesque. Et pour pouvoir voir d'autres exposants, des artistes, des photographes, des illustrateurs, des écrivains et une conteuse que j'ai retrouvée après de nombreux... Non, ah bon, pourquoi Armel, elle est conteuse? Parce qu'il devait y avoir une Armel Wolf juste à côté de moi.
Ah ben Armel Wolf, je l'ai rencontrée.
Ah, tu l'as
vue? Non. Ah ben je sais pas, non, c'est Armel là-bas avec le chapeau, non?
Non, c'est Valérie.
Faut pas m'en vouloir, Anne, je crois que je dois être à ma 40e interview. Mais c'était passionnant, il y a des gens formidables. Là, je vois derrière toi, il y a une jeune femme qui fait 30 ans et qu'en a un peu plus. Et grande sensibilité, des très très belles rencontres aujourd'hui. Et toi, t'as fait des belles rencontres ?
Oui, sans plus, moyen, ouais. Non, j'ai retrouvé des copains qui étaient passés par là. Alors là, ouais, c'était super.
C'est le lancement de la rentrée, quoi, aujourd'hui, un peu.
C'est ça.
Bon, bah, aujourd'hui, en tout cas, il y a sur ton stand bah, ton disque, bien sûr, hein, Esquisse. Oui. Et puis, plein de choses que tu peux proposer en animation partout, c'est ça?
Oui, je peux proposer des ateliers d'écriture. Et puis, peut-être qu'on pourrait en faire aussi, hein, un autre à la radio, je ne sais pas.
Je ne sais pas, je sais que Pascal Niri en fait un en ce moment. Mais je ne sais pas, oui, pourquoi pas, ça c'est à discuter, tout est possible, tout est possible.
D'ailleurs, l'association ne s'appelle-t-elle pas les Chants du Possible? Et aux Chants du Possible, rien d'impossible.
Même de faire renaître ta plante
Ça va être compliqué.
Merci Anne-Wang en tout cas, et bonne fin de salon à toi.
Bisous.
La balade continue, donc toujours sur les... Place Salingro, au cœur de Figueroles, sous les platanes. Et après Anouang, notre conteuse FM+, j'ai le plaisir de retrouver Fatima Kérouche. Fatima, on se croise sur plein de salons. Évidemment, Ninis, la petite berbère, hein, c'est votre héroïne phare. Vous nous parlez un petit peu de votre présence, de votre journée aujourd'hui, parce que là, on arrive quand même un petit peu en fin de journée, Fatima. Bonjour, Fatima Kérouche.
Bonjour, merci de me donner la parole, c'est très agréable. Avec ce beau micro vert, hein, on dirait un bon... une glace à la pistache. Ma journée, parfaite. C'est une belle journée organisée par Thierry Arquet, hein, et puis d'autres structures. C'est le plaisir des rencontres. Le plaisir... Alors, j'ai eu un lecteur particulier, c'est Coco, un gros chien australien qui est venu... j'ai des photos d'ailleurs, qui est venu... qui est venu à ma rencontre, hein, Coco. Et alors, j'ai eu le plaisir de bavarder avec Jeanine Tesson, dont je suivais le travail, que je n'ai pas encore lu. Donc, c'était un vrai plaisir. Et puis, avec Françoise... on avait pas mal discuté. Et puis, tous les copains qu'on retrouve habituellement. Donc, c'est ça. C'est surtout le plaisir de la rencontre.
C'est un beau lancement de saison, de toute façon, parce que ce salon n'était pas prévu... à la mi-mai. C'est après le salon de Clarec que Thierry a été... beaucoup de gens lui ont demandé de continuer un peu l'expérience et surtout de retrouver le charme de Figerolles. Et puis il faut se souvenir que le dernier de Figerolles, c'était 2018 quand même.
Et comme je lui ai dit, c'est vraiment très sympa d'avoir pris le temps et l'énergie de l'organiser parce que c'est vraiment un plaisir. À titre personnel, moi j'ai l'impression que ça clôt l'été aussi puisque ça y est, mes vacances sont terminées et que je reprends le travail la semaine prochaine. Et en même temps, voilà, c'est une belle... c'est de bon augure, sous de bons auspices. Toute cette énergie, toute cette créativité, tous ces gens qui... moi, je dis toujours qu'avec seulement 26 lettres de l'alphabet, on écrit des choses absolument merveilleuses. Dans quel ordre? Dans tous les sens. Enfin, c'est absolument délicieux. Écoutez, j'ai passé une excellente journée. Et...
des rencontres littéraires aussi, des gens qui vous ont acheté des livres. Il y en a eu un petit peu. J'ai senti qu'il y avait quand même un peu de monde par rapport à d'autres salons.
Il y a eu quelques achats. J'ai signé quelques dédicaces avec plaisir. Mais quand même, en priorité, c'est le fait d'être là, sous les platanes, dans ce quartier qui a vraiment un esprit. Je crois que Thierry a mis dans ce salon un esprit tout particulier, convivial, mais une belle énergie, où vraiment on se sent bien, où il y a de la joie, on mange un petit peu, on discute, on échange, et c'est vraiment très, très agréable.
Double mérite d'avoir eu l'énergie de Claret et de Figerolles en 3 mois, c'est quand même formidable.
Prochain, pouvoir aller à Claret, ça me fera très plaisir. L'année dernière, je n'avais pas pu parce que j'avais un autre événement en même temps, mais ça sera avec grand plaisir.
Parce que vous étiez au salon en Tunisie, il y a eu un truc il n'y a pas longtemps, vous étiez loin de France il n'y a pas longtemps.
Je ne sais plus où j'étais, je ne me rappelle plus. Je sais que je serai à Bruxelles en janvier, voilà. C'est-à-dire que grâce à ma Ninis, je vais dans des endroits un peu improbables. Oui, j'ai fait bien sûr plusieurs salons en Algérie et à Prague, d'ailleurs il y a 2 ans, j'aurais jamais eu l'idée d'aller à Prague et je suis allée à Prague grâce à Ninis, la petite berbère, qui me fait voyager et me fait rencontrer de très belles personnes.
On parlait de fin d'été et il y a un événement, alors je pense que l'émission sera bien diffusée après, mais dans pas longtemps, il y a l'ouverture de la saison de les chèvrefeuilles étoilées et votre voisine en est une des fées, c'est des fées. C'est pas des éditrices, c'est pas des autrices, c'est des fées aux chèvrefeuilles étoilées. Bonjour Jeanine Tesson. Jeanine avec Marcienne aujourd'hui principalement. J'ai adoré le livre que vous avez devant vous.
Oui, donc Marcienne, place Salengro.
C'est moi, j'ai toute la série. Hein. J'ai Marcienne à la Comédie du Livre, j'ai Marcienne. C'est toute une série de longues, de belles rencontres. Ça marche bien, ça continue?
Oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est un livre qui plaît et qui fait, dont la communication fait tache d'huile, quoi. Quand les gens l'aiment, ils en parlent et puis voilà. Donc je suis heureuse parce que c'est ce que je voulais, qu'il soit lu.
Merci beaucoup. Donc je vous ai reçu pour Elles ont aimé un homme plus jeune, bien sûr, pour Marcienne. Mais bon, on aura plein d'autres belles rencontres, voilà. Et puis vous embrasserez mercredi soir. Toute la bande des filles et toutes les fées, vous leur direz, hein, voilà, que ce sont des fées pour moi. C'est vrai, des belles personnalités toutes. Oui.
Je t'ai appelée l'autre fois la fée littéraire. Hein.
C'est vrai.
Tu as vu? Exactement, la fée littéraire.
Ouais. Merci Fatima. Merci à toutes les deux en tout cas. Merci, merci beaucoup Fatima. Et après les fées du chèvrefeuille étoilé, je suis avec la fée des complots et caducés de N'oublie pas Irma, du mari d'Asie, bien sûr, avec la fée Hélène Honora. Bonjour Hélène.
Bonjour Nat, comment vas-tu?
Ça va, je t'ai entendu parler là-bas, mais j'étais en interview, donc j'ai pas pu aller t'écouter, je suis désolée. Hein. Elle est en compagnie de Philippe Vinard, qui me maudit jusqu'à la 27e génération. Bonjour Philippe.
Oui, c'est vrai, mais ça vous fera du bien.
Mais j'aime bien être maudite, c'est un côté flamboyant d'être maudit. Donc aujourd'hui, vous êtes là tous les deux avec les éditions Yovana, puis avec les éditions aussi des Quatre Seigneurs. Hélène, le KL Complot et Caducé, la carrière commence bien ?
Oui, écoute, la critique récente que j'ai eue du Monde Libertaire me plaît bien. Tu vois, elle est sur la grille et elle dit « Magnifique roman, événement tragique, moment de grande rigolade et adrénaline assurée ». C'est pas moi qui le dis, hein.
Avec ce ton particulier qui t'appartient quand même, c'est vrai qu'on ne peut pas lire un livre d'Hélène Honora sans rire. Enfin voilà, tu as une façon quand même d'écrire extrêmement drôle, fine, intelligente et légère en même temps. Voilà,
merci.
Voilà. Non mais vraiment, vraiment, avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. Et Philippe aussi, il a beaucoup de livres là-dessus. Mais je l'ai, le Mouchard à biais. Mais moi j'arrive, ah ben t'as plus le... Celui qui était là ce matin, t'as tout vendu. Comment s'est passée cette journée, Philippe ? Quelques mots ?
Eh ben, on avait tellement prié contre la pluie qu'on a eu le soleil. Et c'est finalement merveilleux. Et le soleil pousse à la vente.
Cette fin de journée à l'ombre est tout à fait délicieuse aussi, puisque ça se refroidit un peu. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Hélène.
Je t'en prie et je t'embrasse.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe.
Je suis assise avec Michel Sala, qui est édité à plein de maisons d'édition. Il fait Les Impliqués, l'Armatan, je vois là. Michel, je crois que vous avez déjà rencontré ma copine. Hein ? Vous pouvez nous parler un petit peu quand même de ce que vous faites, ce que vous écrivez ?
Écoutez, oui, j'ai rencontré votre collègue. Je lui ai déjà parlé, mais je veux bien compléter ce que... Dire quelques mots à sa charmante collègue. Eh bien, j'ai pas mal écrit sur la mythologie, sur la religion qui pour moi est de la mythologie, moi qui ne suis pas croyant. Alors c'est la mythologie grecque, biblique, les rituels. Alors, peut-être que mes paroles vont choquer peut-être les auditeurs de votre radio, mais bon, je crois que c'est une radio protestante, mais je crois que les gens sont ouverts à toutes idées. Et donc, mon dernier livre qui s'appelle « Trans de l'initié », où un narrateur raconte les affres des débuts de sa vie, et comment il réussit à finalement s'initier aux difficultés de la vie tout en se confrontant à des grands textes du patrimoine mondial. N'ayons pas peur des mots, que ce soit Abraham et son fils Isaac, dont on connaît les risques auxquels il est soumis, que ce soit Hésiode à travers la Théogonie, enfin, des passages très succincts de la Théogonie, que ce soit les Givaro à Chuard que Philippe Descola a décrit dans nombre de ses livres, etc., etc. Voilà, donc c'est une vision qui se veut assez scientifique finalement, assez rationnelle de ce qui nous arrive dans ce monde difficile. Voilà.
Ben, merci beaucoup Michel Sala. Et je termine cette journée avec grand bonheur. Je l'ai ouvert avec Thierry Arquet, un ami, et je la ferme avec un autre ami très cher à mon cœur, Jean-Claude Rivière. Jean-Claude, depuis ce matin, tu me vois
bouger,
naviguer entre les tables, mais je t'ai gardé pour la bonne bouche. Faut pas que Virginie entende ça, sinon elle me tue. Mais je l'ai rencontrée déjà, elle m'a pas parlé là. Mais
L'intérêt de ce salon, ça a été à la fois de retrouver un quartier que je connais bien, mais dans lequel on n'a pas ce genre d'activité habituellement. Mais c'est surtout qu'on a retrouvé aussi des auteurs qu'on avait peut-être un peu oubliés en tant qu'être humain, parce qu'un auteur, c'est pas quelqu'un qui écrit uniquement, c'est aussi quelqu'un qui a des idées, qui parle, donc plutôt positif.
Tu trouves pas que c'est un formidable lancement de la saison des salons de cette année ? Moi, je l'ai trouvé un peu tôt au début, quand il m'a dit « Oh là là, le 3 !» Je me suis dit « Il n'y aura personne. » D'abord, il y a eu du monde.
Alors, ce qui m'inquiétait, c'était qu'aujourd'hui, il y a encore une espèce d'air de vacances prolongées et qu'on est sur une véritable période de transition. D'ailleurs, j'entendais hier des personnes qui disaient « Ah, bon, on restera encore un jour de plus à la mer parce que cette année, les vacances, on ne sait pas si on en prendra aussi facilement l'année prochaine. » Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on est sur une fin de quelque chose de très chaud. Et aujourd'hui, c'est une journée supportable. Une des premières, d'ailleurs.
Donc, avoir des chaudes devant nous.
Voilà, alors on ne sait pas, mais en tout cas aujourd'hui c'était bon. Et je pense que, comme tu disais très justement, c'est un lancement. Alors le lancement aurait pu être hésitant, mais je pense que non, c'est un lancement.
C'est très réussi.
Oui, oui. En tout cas, le quartier a beaucoup apprécié. C'est, j'ai entendu vaguement des petits échos. Et il semblerait quand même qu'on attendait à ce que ce salon revienne.
Je crois que c'était très attendu. Pour parler de toi et du Bicart. Hein ? Alors de toi, déjà entre Marquely, t'écris pas en ce moment, t'as pas le temps.
Alors Marquely, il a quelques bouquins qui sont dans des tiroirs, il les referme aussi vite que ceux qui les ouvrent, mais il y en a un qui serait bientôt prêt, je vais dire qu'il relèverait plutôt de la boutade que de l'ouvrage de fond, il s'appelle Haïku, et on devrait quand même arriver un jour à le publier. Ça, c'est prévu.
Tu sais qu'il faut s'occuper de soi dans la vie, Jean-Claude. Hein ?
Oui, je sais, mais enfin... Il est important aussi de se réaliser en s'occupant des autres. Et des autres, il y en a et ils valent la peine qu'on s'occupe d'eux.
Parlons-en d'ailleurs. Moi, j'attends le Balitran, mais qui est sorti, je crois.
Alors, Balitran est là. Alors, pas lui, parce qu'aujourd'hui, il devait venir, mais il a eu un problème de santé, ce qui arrive. Dans son ouvrage, les guetteurs nostalgiques étaient là. Je crois qu'il est d'ailleurs plus ou moins à côté de nous. Et on ne l'a pas encore vraiment lancé, parce qu'il est sorti juste avant l'été. On a eu quelques demandes de librairies locales, mais c'est encore très balbutiant. Il sera, je pense, disponible, et on en parlera ce mois-ci, où on peut déjà dire qu'on aura deux salons, un salon et une occupation culturelle locale. Le salon est à Montbazin, et l'occupation culturelle, ça sera au théâtre Beaux-Arts Tabar, où avant la fin du mois, nous avons un bel événement prévu.
Tu nous informeras tout ça pour qu'on puisse relayer à la radio ?
Aujourd'hui, je suis uniquement dans l'annonce, on va dire un petit peu en pointillé, mais c'est vrai que ce lancement, aujourd'hui, ça nous incite à se dire que le mois sera bien. On y croit.
Le mois, la saison, puis l'année, allez, on va tout faire pour que ça se passe bien ?
On va dire qu'on a tout fait pour que ça démarre bien, donc pour vous que ça dure.
Tu te sens d'attaque ?
Oui, on va dire ça très vite. Il y a quelques petites bricolettes médicales prévues, mais enfin, on va les zapper et on ira au plus direct, qui est de travailler pour nos auteurs, pour nos lecteurs et aussi pour se faire un plaisir.
Et puis tu sais que dans ce chemin-là, dans cette bataille-là, dans ce combat-là, dans ces idées-là, bah, François Zir te suit. Je couperai. Attends.
Non,
que dans ce combat-là, tout ça,
Radio FM
Plus te suit. Te soutient, t'aime, tout simplement.
Nous le savons, cher ami, nous le savons tellement qu'on a tendance à oublier qu'il faut chaque fois vous informer. Donc je te dis, et je répète pour qu'on le garde bien sous le coude, qu'il y aura le 23 à Montbazin et le 28 à Montpellier, un événement qui sera aussi non négligeable. Et je compte bien vous mettre en situation de faire cet événement, un bel événement radiophonique.
Ben merci beaucoup Jean-Claude Rivière. Merci à la belle Virginie qui est derrière. Hein, voilà. Et tu l'embrasseras pour moi. Et puis on se donne rendez-vous bientôt.
Absolument. Je crois que j'avais ma canne.
À bientôt. Ainsi se termine cette belle journée, ce beau dimanche de début septembre. Place Alain Gros, lors du Salon du Livre et des Arts de Figueroles, qui fait suite à cette belle série d'émissions qu'on vous a proposées avec Yann et Marie-Agnès Salezada l'été dernier autour de Claret. Tous les auteurs présents seront bien sûr mis sur le podcast. Et je remercie à nouveau Thierry Arquet pour son accueil, sa gentillesse et la disponibilité des auteurs. Nous ferons une quatrième émission avec quelques auteurs que nous n'avons pas pu mettre dans les trois heures et qui sera animée par, je l'espère, François Millet et Christian Malaplate, qui, je suis sûre, répondront à mon invitation. À très bientôt avec de nouveaux invités dans Aéropage, l'émission littéraire de Radio FM+. Je vous souhaite une belle fin d'année. À très bientôt et joyeuses fêtes. Au revoir.
L'Aéropage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.